Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. E-Teacher 76. Salut Seb.
Salut Jeff. Salut tout le monde.
Voilà. Content de vous retrouver avec... Guillaume qui va peut-être nous prendre en cours. Voilà, une émission un peu spéciale pour moi parce que je suis en vacances, moi, si tu veux savoir.
Ouais, c'est bien.
Voilà. J'en ai pas fait souvent en vacances, je pense.
Ouais, la émissions. Politesse, c'est de pas trop se vanter.
Hein. Oh, tu diras la même chose dans deux semaines, toi, hein, ouais. Quand j'aurai repris. Allez, une petite émission pour l'instant, à deux. En tout cas, si on regarde le sommaire, je sais pas Guillaume sur quoi il va participer, mais bon, on a deux gros morceaux quand même dans les outils, hein.
Ouais,
applis assez connues mais qui évoluent. D'un côté pour le bien, d'un côté un peu pour moins le pire.
Alors, je voilà. Sais pas pour le bien, on verra.
On verra. Pas de trucs et astuces ce soir, tiens, voilà. Pas mal d'actu, moi j'ai rajouté pendant la mine pas mal d'actu tous les deux. Voilà, ce qu'on fait en ce moment, bien sûr. Et un petit pour parler d'autre chose, pour l'instant, moi j'ai pas rempli, ça me viendra peut-être en cours d'émission.
Oui, on est comme ça, nous on fait sur le vif, sur le fond.
Voilà. Un petit retour, moi j'ai un petit retour sur l'émission précédente de Steph at Technophilis. Félix, je ne sais pas comment ça se dit, avec un SZ à la fin.
Félix.
Il m'excuse. Félix, ouais. Félix, enfin, en espagnol. Mais il m'excusera si je le prononce mal. Qui nous dit, ah ben alors, j'avais loupé ça. Merci à l'équipe des t-shirts de m'avoir fait découvrir la carte parcours. Je crois que ça, c'est pour toi, ça, Seb, en plus.
Ouais. C'était la carte d'Éric Itier qui m'avait donné l'idée de ma QR carte. Tout à fait.
Voilà, et donc...
Ah, j'en profite, d'ailleurs, il a fait son site, et Eric, je mettrai le lien dans les notes de l'émission, qui est bien sympa pour partager sa pratique.
D'accord, je pensais que tu allais le donner tout de suite. Non,
non.
T'as pas l'adresse.
Comme ça, en mémoire, non, mais je vais te le ressortir.
Allez, on va le mettre dans les notes de l'émission. Si vous voulez réagir, bien sûr, en direct, hein, c'est sur YouTube maintenant, c'est le plus simple. On vous a envoyé le lien sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, en tout cas. Je vais couper mes notifs, hein, qui doivent sonner sans arrêt d'ailleurs. Hein. Voilà. T'entends rien, toi ? Ah bon, ça va, tant mieux. J'ai sans arrêt des notifs. On rentre dans le vif du sujet. On y va. Allez, outils. Seb.
Alors, outils, oui, outils Book Creator. Alors, Book Creator est une application fort connue des utilisateurs d'iPad dans le milieu éducatif qui permet, comme son nom l'indique un petit peu quand même, hein, de faire des livres sur tablette. Alors, originellement présent sur iPad, elle a été ensuite... adapté sur Android, avec toujours un petit temps de décalage dans les adaptations, à savoir que l'application iPad était toujours mieux finie que l'application Android. Il permet de faire des livres tout bêtes, hein, comme des livres papier.
Je te coupe, dernièrement, l'application Android n'existait plus même.
J'y arrivais.
Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi.
Voilà.
Je fais trop vite.
Donc, je reviens. Donc, ça permet de faire des livres classiques, de faire des EPUB, de faire des livres avec du son, de faire des livres avec des images, de faire des livres avec des vidéos, tout ça. On pouvait l'exporter en PDF, on pouvait l'exporter en vidéo, etc. Très sympa. Moi, c'est une application que je conseille généralement quand on me demande « Tiens, mais qu'est-ce que tu utilises sur tablette ?» Alors, j'avais acheté les deux applications, il faut savoir, l'application pour iPad et l'application pour Android. Et comme tu viens de le faire remarquer, l'application pour Android, eh bien, on peut s'asseoir dessus maintenant. Elle n'est plus disponible sur le store officiel. Donc, merci. Donc, ça te fait toujours plaisir. Ah oui. Ensuite, pardon, il y a Guillaume qui nous fait des petits messages sympathiques. Elle n'est plus disponible et en même temps, ils ont mis en place une nouvelle forme, on pourrait dire, de Book Creator, puisque Book Creator existe pour Chrome maintenant, le navigateur Internet de chez Google. Alors, on va retrouver sur Chrome, avec déjà un compte gratuit, qui vous donne accès à la possibilité de créer 40 livres. C'est la base du compte gratuit. Après, vous, bien sûr, vous avez des comptes payants, car comme toutes les vieilles applications, hein, entendez, celles qui tournent depuis un petit moment, elles ont tendance à changer de modèle économique au bout d'un moment. Ce que fait Book Creator, alors bon, moi, ça me fatigue un peu pour le côté, on laisse l'application Android de côté, mais on n'y fait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'elle nous offre, cette version pour Chrome ? Alors, je dois avouer qu'en termes d'ergonomie, la version de Chrome, elle n'a vraiment pas à rougir. Moi, je l'ai essayé, je l'ai prise en main facilement. C'est un petit plaisir. On va retrouver toutes les rubriques habituelles que l'on avait l'habitude de retrouver, hein, à savoir les images, la manière d'ajouter les fonds, d'ajouter les formes, d'ajouter du son, etc. On peut, comme sur iPad, choisir entre un format de livre classique ou un format de livre BD. Donc, vous pouvez avoir des tas de choses. Vous pouvez facilement faire... Alors moi, je me suis amusé à faire une espèce de page avec des chats et des bulles. Voilà. Très facilement, hein. En plus vous avez accès à la recherche. Par contre, il y avait quelque chose qui n'était pas disponible sur iPad dans mes souvenirs, c'est que vous pouvez rajouter des images que vous allez chercher avec Google Images. Voilà, c'est sympa, c'est vite fait. La nouveauté, en fait, c'est que une fois que vous avez fini de créer votre livre, vous allez pouvoir le partager. Le publier, pardon. Vous allez le publier, et en termes de publication, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne l'accès à votre livre sous forme d'un lien, et une fois que vous avez cliqué sur ce lien, non, ça c'est des appareils photo, une fois que vous avez cliqué sur ce lien, ça vous donne la lecture directe du livre sans avoir besoin d'ouvrir un logiciel supplémentaire, etc. C'est en fait le gros avantage, c'est qu'avant, on créait un lien avec un livre avec Book Creator, et pour ouvrir le livre et profiter de toutes ces possibilités, il fallait Book Creator. C'est un peu ça l'embêtant, parce que vous aviez toujours des fonctionnalités qui étaient masquées. Alors, je fais un petit arrêt, Jeff. Oui, on entend des notifs, là, par contre.
Ah. Merde, j'en ai partout, là, sans arrêt.
Voilà, donc j'en ai partout. C'est le gros avantage. La publication en ligne, c'est sûr que là, ça donne un lien à coucher dehors avec 40 lettres, donc... assez difficile à tracer, à trouver si vous n'avez pas le lien, pour pas dire impossible. C'est le gros avantage. Après, il faut savoir que si vous voulez... Donc, je vous ai dit 40 livres disponibles avec la formule gratuite. Si vous passez à la formule... vous avez deux autres formules, voilà, qui sont... Alors, vous pouvez avoir 180 livres ou 1000. Voilà, les deux formules. Bon, après, ça chiffre vite quand même. Hein. 180 livres vous demanderont $60 par an et par enseignant. Je trouve ça un peu fort de café, mais bon, ça, c'est moi. Et la petite option qu'ils se sont gardée pour le côté payant, c'est la collaboration en temps réel sur un livre. C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Hein.
Je comprends. Je comprends, entre guillemets, mais voilà, ça me disait bien, j'ai vu le bouton, en plus c'est un petit peu vicieux hein, de leur part, ils ont mis le bouton, et puis dès que vous cliquez dessus, c'est « Ah, attention, c'est payant !» Je fais « Ok, bon, ben, tant pis. » Donc, voilà, c'est une belle réalisation, c'est une évolution, donc... à voir, hein. Si vous êtes un habitué de... Ah oui, voilà, petite chose un peu bizarre, c'est entre l'application et le service web, je n'ai pas l'impression que les choses communiquent très très bien. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de retrouver mes livres que je crée en fixe, je n'ai pas l'impression de les retrouver sur le web. Mais je vais essayer de fouiller un petit peu ça pour voir.
Et moi, je sais qu'il y a une collègue qui a essayé de travailler avec des gamins, mais ça complique un peu les choses, hein.
Ouais.
Par rapport au compte, etc. Non? Comment tu as géré ça?
Bah, écoute, là, pour l'instant,
t'as créé quoi? T'as un compte prof et c'est
là,
ça?
Pour l'instant, j'ai un compte perso, on va dire, point barre.
Et tu ouvres plusieurs. Plusieurs, comment ça s'appelle, livres sur ton compte, c'est ça?
Voilà, non, voilà. Oui. Après, je n'ai vraiment pas testé en milieu scolaire.
Parce que j'ai une collègue en histoire là, qui voulait tester Book Creator, qui avait l'habitude sur iPad. J'ai dit, bon, on passe sur Chrome. C'était pas évident la gestion des comptes élèves, etc.
Ben c'était après, un peu galère. Après, tu sais, le gros avantage de la version iPad, c'est que voilà, quoi, tu as.
Ah, t'étais en local, quoi, bien sûr.
Moi, au boulot, je suis en local encore. Hein. On a acheté l'appli, donc là, pour l'instant, j'ai aucun intérêt à passer en web, sachant par contre que je pourrais toujours exporter les bouquins pour les faire lire sur un compte web.
Oui, parce que t'es sur iPad, c'est ça, au boulot. Ouais.
Parce que je suis sur iPad au départ.
Ouais.
Après, tu peux les exporter depuis le compte web. Mais bon, là, après, ça demande à fouiller un peu.
Je te dis, voilà. Le gros problème, c'était ça. Hein, c'était la gestion des comptes, justement, pour travailler. Tu vois, faire plusieurs bouquins par élève, c'était un peu galère là-dessus. Mais on n'a pas trouvé la bonne technique encore. Voilà.
Ouais. Après, je ne suis pas sûr que ce soit si finalisé dans cette idée-là. Là, ils ont lancé le truc, c'est bien réalisé, ils ont bien adapté au web, mais ils n'ont peut-être pas, tiré parti de tout ce qu'ils pouvaient faire en allant sur le web.
Ouais, d'accord.
À voir, je te dis.
Bon, ok, à creuser en tout cas.
Tout à fait. On reste dans les vieilles applications. Hein.
Ouais. Il y a eu pas mal. Ouais, j'ai eu mes notifs, vous entendez toujours en fait? Ouais.
Là, j'entends plus, mais un petit peu aussi. Enfin, je dirais ça.
Allez, on reste dans les vieilles applications. On reste dans une application qui s'appelle. Ah, bah tiens, voilà Guillaume, tiens, vas-y, avant que j'attaque la prochaine. Salut Guillaume.
Bonjour.
Ça va
Guillaume. Oui, ça va.
Ça va, t'as couché tes enfants?
J'espère, à moins qu'ils débarquent. Mais,
c'est les vacances, ils en foutent.
C'est normal.
Il profite.
Oui, très bien. Mais allez-y, j'arrive.
Allez, on va parler de Padlet. Padlet qui est une appli, je pense, que tous les enseignants utilisent, enfin, beaucoup d'enseignants utilisent. Quand on le présente, la plupart du temps, maintenant, ils connaissent les enseignants, c'est vrai. C'était vraiment un super appli, aussi bien sur ordinateur que sur appareil mobile. Alors Padlet, pour ceux qui encore ne connaisseraient pas, c'est un grand mur, en tout cas virtuel, où on va pouvoir afficher des choses dessus. On va pouvoir accrocher, afficher du texte, afficher de la vidéo, afficher du son. Même dernièrement, on pouvait même s'enregistrer directement en audio, directement le. J'ai un collègue là qui m'envoie des SMS sur ce qu'on est en train de dire, mais c'est pénible. Il faut.
C'est un collègue que je connais, non?
Oui, tu connais très bien. Tu connais très bien. Pas sur le chat, Kedem, celui qui m'envoie des SMS. Voilà. Salut Kedem, pas sur le chat sur YouTube, on en parle. Voilà.
Il n'a pas envie.
C'est plus ce que je disais. Bon, Padlet, voilà. Padlet, donc c'était vraiment un super outil. Hein, vraiment, que ça marchait très bien sur appareil mobile, etc. Ils ont changé leur business model, Padlet. C'est vrai que je me demandais comment ils gagnaient de l'argent, Padlet, hein, parce que la version gratuite.
Tu demandes toujours comment.
Je sais pas quelle était la limitation de la gratuite.
Je crois qu'on en avait parlé plusieurs fois. En fait, tu te demandes à quel moment ça s'arrête. Je sais que les vidéos, c'était seulement le. Par exemple, tu étais limité dans la taille de la vidéo que tu envoyais. Mais ils te disaient, je ne suis jamais arrivé à un moment où ils me disaient, oula, stop, il y a d'intro.
Ouais, c'est vrai. Et donc là, ça a changé et c'est devenu payant. Donc, l'offre gratuite, en fait, continue, mais à des limitations très strictes, dont trois murs, on peut créer trois murs, c'est tout.
On pourra pas.
Ouais, c'est tout. C'est la limite, maintenant.
C'est,
Vas-y, dis-moi.
Si je peux me permettre, c'est vraiment de l'actualité et c'est quand même un raz-de-marée. Enfin, c'est un truc ouais. fou. Moi, j'ai appris ça la semaine dernière en réunion à Paris. Peu importe, on était entre collègues justement de formateurs TIS. Enfin, c'était le truc. On a l'impression que c'est. Oh Padlet est devenu payant, quoi.
Et oui.
C'est vraiment, ça prouve à quel point cet outil-là était ancré dans nos pratiques, était utilisé, parce que comme tu le dis, Jeff, il rassemblait à la fois la gestion de l'audio, de l'image, de la vidéo, enfin, tout cette espèce d'endroit pour tout récolter. Et c'est un peu un raz-de-marée, je dois reconnaître, pour nous. Alors bon, il y a toujours la solution de multiplier les adresses email et autant de comptes hein, pour travailler, mais c'est quand même pas super confortable, quoi. Voilà.
Voilà, et après, trois Padlet, est-ce qu'on peut. La question, c'était est-ce qu'on. C'est trois simultanément, c'est ça? Si on en supprime et.
C'est ça que je sais pas. C'est trois simultanément. Si en général, c'est ces outils-là, c'est jusqu'à trois simultanément.
Donc on peut en supprimer, voilà, c'était ça. Voilà. Mais bon, en fait. Oui, vas-y.
Ouais, avant que tu repartes, ça m'a fait quand même penser à quelque chose. C'est finalement, il y a un moment aussi, c'est peut-être normal. Je veux dire, ce sont
des
éditeurs privés. Nous, on utilise ça comme pas possible. Je veux dire, il n'y a pas une formation ces cinq dernières années qui n'a pas mentionné Padlet. Et vu l'effet que ça fait sur l'ensemble des professeurs, qui pour certains se sont même mis à élever la voix assez fort en disant que c'était inadmissible et tout ça. Bah non, c'est peut-être pas inadmissible en fait.
Ah bah non.
Juste qu'il y a des gens derrière qui développent tout ça. Alors après, est-ce que c'est pas des accords qu'il faudrait passer plutôt que de nous foutre de Windows sur toutes les machines et blablabla et toutes ces licences qu'on a depuis des années? Est-ce que ça serait pas des trucs que l'éducation nationale pourrait gérer en direct vu l'utilisation qui en est faite et qu'on puisse avoir des comptes spécifiques sans que ça coûte rien aux professeurs, bien évidemment? Peut-être, hein, mais en tout cas, ça prouve l'utilisation qui en était faite, les utilisations nombreuses.
Stéphane dans le chat nous dit c'est un peu comme si Gmail devenait payant. Ouais.
Ouais, mais, que Gmail, ils revendent tes informations, donc si tu veux, ils gagnent du fric.
Et puis, que des alternatives, on en trouverait plus facilement, parce que je vais parler bien sûr des alternatives.
Bien sûr.
Non, mais je suis d'accord avec toi hein, sur Padlet. Forcément, le business model, il faut qu'il gagne de l'argent derrière, et c'est une société. Donc, le business model, il était vraiment obscur. Je me demandais toujours comment il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien sur Padlet, quoi. Je ne sais pas où gagner de l'argent.
Bah, en fait, les outils premium, enfin la fonction premium a toujours existé sur Padlet.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle apportait plus? Je n'ai aucune idée.
C'est ça la question. C'est toujours ces trucs-là, se dire qui les achète en fait en général. Moi, je pense qu'on est souvent loin de se rendre compte du marché américain en fait, parce qu'il y a énormément d'outils qu'on utilise en Europe, voire même en France, qui sont utilisés sur le marché américain de manière payante, avec énormément d'écoles. Et quand on voit le nombre d'écoles qu'il y a aux États-Unis, si toutes effectivement achètent les solutions premium, ils peuvent aussi vivre avec ça, quoi. Mais bref, en tout cas, il va falloir peut-être trouver une alternative. Et donc,
avant l'alternative, on parle prix. En fait, c'est pas si cher que ça, moi, je trouve, hein, leur proposition. Hein. Tu vois, c'est de 8,25€ par mois, donc ça fait 100€ à l'année.
Voilà.
Je pense qu'un établissement pourrait se le permettre, quoi. Voilà.
Bon, ouais, oui, bon, après, tu vois, ça fait très cher pour moi, par exemple.
Ouais, peut-être.
Bon. Parce que moi, en définitive, il n'y a que ma classe, etc., qui va l'utiliser. Donc, 100€ sur mon budget.
Oui, mais finalement, est-ce que toi, à la limite de 3, si tu les fais tourner, c'est peut-être pas suffisant. Est-ce que tu peux t'en sortir comme ça?
Non. Alors là, je suis en train de regarder. J'en ai. Alors, parce que là où j'étais étonné, si vous voulez, c'est que j'ai reçu un truc de Padlet me disant oh là là, on est passé payant il y a quelques semaines, on a changé notre modèle et vous pouvez en créer encore tant. J'en ai 20 de Padlet pour l'instant. J'ai 20 murs, pardon.
Alors, les anciens Padlet sont gardés. Hein.
Oui, ouais, voilà. Mais...
Tu ne perds pas tes anciens Padlet.
Oui, enfin bon, si c'est comme certains services où, d'accord, on vous conserve vos anciennes données parce qu'on vient de renouveler, mais par contre, vous n'en créez plus de nouvelles, bon.
Bon. Donc, ça a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, sur les alternatives à Padlet. Là, entre Twitter, entre tous mes flux RSS que je suis, tous les sites que je suis, etc., ça a été sans arrêt des alternatives. Voilà. Alors... Il y a un très bon site de l'Académie de Versailles qui est le portail des langues, tiens, justement, de l'Académie de Versailles, qui a fait un très bel article sur les 7 alternatives à Padlet, que je mettrai dans les notes de l'émission. Il propose un que j'utilise assez souvent, qui s'appelle Lino, que tu connais aussi, Guillaume, je pense, qui est plus un mur virtuel, donc qui est proche de Padlet, où on peut mettre... qui c'est un système de post-it plutôt. Et c'est vrai qu'on peut ajouter du texte, des images, des vidéos, des documents. Il est beaucoup moins fun que Padlet, beaucoup moins voilà, user friendly comme on dit, que Padlet. Mais bon, il fait le job. Il fait le job, mais je m'en servais beaucoup moi uniquement pour ces histoires de post-it. Vous le trouvez sur linohit.com. Quelque chose que vous connaissez sûrement, ce qui s'appelle Learning Apps. On en parle aussi dans toutes les formations de ce système Learning Apps. C'est une grosse base de données de plein de. On s'en sert beaucoup pour des questions, pour des petits jeux, etc.
Pour les
plus. Et il y a quelque chose sur Learning Apps qui
moderne. Pardon, c'est la version moderne de Hot Potatoes. Vraiment, c'était un peu la même histoire.
C'est vrai. Et j'avais oublié que Learning Apps proposait ce qu'on appelle un mur collaboratif.
Oui, c'est vrai.
Ah, j'avais carrément oublié cette fonction-là. Ouais. Et en fait, Learning Apps permet de poster, de proposer un mur collaboratif à la façon Padlet et de publier derrière à n'importe qui et à pouvoir mettre des éléments. Petite chose, pas parfaite non plus. Hein, je vais vous trouver des défauts à chacun. C'est qu'il utilise la technologie Flash, d'ailleurs, pour pouvoir mettre du son et de la vidéo. Wow. Donc, sur appareil mobile, on oublie. Voilà.
Appareil mobile, on oublie.
Ouais. Mais ça mérite d'exister. Après, il en existe. Enfin, ils en proposent beaucoup. Hein, je les connais. Moi, j'ai testé un qui était plébiscité par justement le Versailles les langues, qui était plébiscité par un site que je suis qui est en anglais qui s'appelle Free Technology for Teachers. Je sais pas si vous connaissez ce site très très intéressant. Je suis beaucoup dessus. Qui s'appelle Netboard.
Ah, mais t'es sur le truc des langues vivantes de Versailles ?
Oui.
Ah, d'accord. Ok, très bien.
Pourquoi ?
Plutôt. Mais parce que, en fait, voilà, je voulais effectivement en parler puisque j'ai participé un peu à la réflexion là-dessus. Mais pas de souci, vas-y.
D'accord. En lien hein, par rapport, je disais, avec le Free Technology for Teachers, hein, qui est un site américain qui est très, très, très intéressant aussi et qui publicite beaucoup Netboard. Moi, je suis allé voir Netboard, j'ai dit, s'il y en a un à tester, c'est Netboard. Hein.
Tisman en parlait aussi cette semaine, je crois.
Ah, j'ai pas suivi. Tiens, Tisman est dans le chat en plus, justement. Oui. Netboard, donc netboard.me. Voilà, il marche bien. Il marche sur les appareils mobiles. On peut mettre du son, de la vidéo, etc. Moi, il a un défaut. C'est que pour partager son mur, il faut absolument le partager à un mail. On ne peut pas créer un lien qui était l'intérêt de Padlet. On crée un lien directement et voilà. Netboard, il a vraiment ce gros défaut, c'est qu'on partage avec un mail. Donc, avec les élèves, c'est niet. D'accord ? C'est niet. Donc il n'est pas parfait. Il fait un petit peu le job, etc. Alors, après, moi, je n'ai pas testé les sets qui étaient proposés, hein, qui me paraissaient plus obscurs que l'un que l'autre. Hein. Spaz, Wakelet, Plenty Pins. Voilà, enfin, ils ont tous des défauts hein, dans ce qui est dit. Dans Free Technology for Teachers, il en propose même d'autres que j'avais essayé il y a longtemps, qui étaient Scrumble, je sais pas comment on dit ça, Scrumble. Voilà. Scrumbler, c'est un vieux site hein, qui a réapparu moi dessus, mais que j'en gardais pas un grand souvenir, mais je suis pas allé le tester. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans les notes de l'émission, dans les commentaires.
Je vais te couper, puisque Tisman intervient et nous dit non, copie de l'adresse sans mail pour Netboard.
Ah, bah alors j'ai pas trouvé.
Je vais pas tester, je ne veux pas. Voilà.
Ah, bah tu vois, Tisman, tu m'intéresses. J'ai pas vu. Non, parce que moi, à chaque fois que je copiais l'adresse et que je la partageais à quelqu'un, il lui demandait de s'inscrire. Donc, bon, à creuser en tout cas. Voilà. En tout cas, moi, n'hésitez pas dans les commentaires de ces émissions de mettre vos alternatives à Padlet et on en parlera d'ici 15 jours à 3 semaines pour voir un petit peu lequel va remplacer notre Padlet. Mais ça va être dur quand même, hein, non ?
Je crois que ça va être dur et voilà, comme on l'a dit un petit peu avant, tout l'engouement qu'il y a autour de Padlet depuis quelques jours, depuis une semaine, et montre bien la puissance de cet outil. Et c'est vrai que dans toutes les alternatives qui ont été compilées, aussi bien sur Versailles qu'à droite à gauche, moi je trouve que c'est Netboard, de ce que j'ai pu voir, je ne l'ai pas testé, qui me paraît le plus intéressant. Reste à voir.
Ouais, tu verras sur mobile, c'est pas le top, mais bon.
C'est pas top, ouais, c'est pas top. Ouais. Bon, moi, j'ai envie de dire aussi que voilà, ça peut être l'occasion d'investir peut-être, pourquoi pas, pour les établissements dans cet outil, si vraiment il est utilisé aussi puissant que ça. Moi, je pense que ça peut valoir le coup.
Voilà.
Bon, et ben voilà. Donc je mettrai les notes de l'émission dans les notes de l'émission. C'est trois liens là. J'ai trois liens sur la thématique Padlet. Mais c'est vrai que ça a été cette semaine et la semaine dernière assez vif hein, là-dessus hein, sur ce.
Oui. Et puis c'est marrant vraiment comme les gens ont réagi. C'est un peu l'actualité quoi. C'est vraiment le truc. On voit en fait toute la limite de nos utilisations quand finalement un outil devient payant. C'est soit un scandale international, soit on va trouver d'autres solutions. Et c'est vrai que c'est pas encore dans notre mentalité de se dire pourquoi pas finalement investir aussi dans une solution logicielle. On le voit pas. Enfin, dans les matières, peut-être, je pense que toi en techno, c'est peut-être plus souvent que ça arrive, tu vas me dire, Jeff. Mais dans les matières un peu plus traditionnelles, on n'imagine pas aller investir de l'argent dans des solutions logicielles en fait. C'est assez rigolo. Dans mon entourage, c'est un peu toujours on utilise que du gratuit. On utilise, si à un moment les outils sont très bien et payants, faut pas hésiter non plus à les acheter, ma foi.
Que Padlet a vraiment fédéré une communauté derrière et c'est tout à leur honneur aussi. Hein,
non, et puis bon, de toute manière, faut pas se leurrer. Hein, quand il y a un savoir-faire, etc., ça sort pas de nulle part. Alors. On ne peut pas non plus gueuler sans arrêt sur les méchantes compagnies qui piquent nos données et se dire « Ah ben non, mais moi, je veux que du gratuit. »
Surtout que en ce qui concerne Padlet, je n'ai jamais trop regardé les conditions d'utilisation, mais il ne me semble pas qu'il y avait vraiment de problème comme sur les autres réseaux. Enfin, ce n'est pas un réseau social d'ailleurs, mais…
Notre ami Kedem dit le contraire. Hein.
Alors, c'est bien pour ça que j'ai dit « Je ne pense pas ». Pas en tout
voilà,
cas.
C'est lui, il me harcèle pour ça, justement là.
Je me suis absolument pas penché dessus, hein, c'est bien pour ça que je le reconnais honnêtement, mais j'avais peut-être entendu et à tort, donc dans ce cas, très bien, merci Kedem de nous spécifier l'inverse. Je ne savais pas ce qu'il en était des données. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours utilisé ça pour poster des travaux d'élèves sans connexion de leur part et en plus ou moins ou en mettant des pseudos de la part des élèves. Je ne voulais pas justement qu'ils, pour ces raisons-là, qu'ils s'identifient clairement. Très bien, ma foi, voilà.
Tout à fait. Bon, on continue. On va pas passer la soirée sur.
Je sais pas à qui c'est, éventuellement à moi, mais peut-être que Seb a quelque chose à dire.
Alors, je regarde.
J'ai absolument rien mis dans le document comme d'habitude, surtout que je couche.
Voilà. Dans les outils, donc tu as quelque chose à proposer ou on passe?
Bien sûr.
Allez, vas-y. Ouais, vas-y.
Un outil qui est fort intéressant, ma foi, et que je vous présente de suite si je me retrouve mes affaires. Voilà. Bien, c'est un petit outil de montage vidéo simple. Pourquoi simple ? Tout simplement pour la bonne raison que souvent, très très souvent en formation, est-ce que c'est bon, vous voyez ma page ?
Impeccable.
Très bien. Sauf que ce n'est pas du tout celle-ci que je vous...
C'est Netboard, justement.
Là, on est sur Netboard. Ça va me revenir dans une seconde. Voilà, ça y est. C'est un outil d'édition vidéo qui s'appelle Coping, K-A-P-W-I-N-G, Capwing exactement, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je n'ai pas vérifié, et qui est un éditeur de vidéos en ligne. Bon, ce n'est pas nouveau, vous allez me dire, hein, il en existe depuis longtemps, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans les teachers, on avait parlé notamment de l'éditeur de YouTube, on avait parlé de tous ces outils. Lui, la différence, c'est qu'il est moderne, très moderne. Il propose même des petits outils pour faire ce qu'on appelle des mimes, des mèmes parfois mal prononcés. Je pense que vous voyez tout ce que c'est, ces espèces de petits montages très courts de vidéos, de photos fixes avec du texte qui sont souvent des blagues, hein, qui reviennent très très souvent. Voilà un exemple de mime classique. Vous avez peut-être déjà vu cette image de Batman qui fout une pêche à Robin avec une bulle et à chaque fois on change le texte pour mettre plein d'histoires. Je sais pas, vous voyez ce que
je parle.
Très bien. Voilà, ça c'est un exemple de mime. Il en existe des animés, beaucoup, comme des gifs animés également. Bref, le fonctionnement est très simple. Vous avez pourquoi il est simple ? Parce qu'en fait, les outils proposés sont fixes. C'est-à-dire que contrairement à des vrais éditeurs en ligne où vous pouvez tout modifier, là, vous avez des transitions qui sont fixes, des placements de sons qui sont fixes, d'images qui sont fixes, de montage, texte qui sont fixes, quelques filtres vidéo, des fonctions de vidéo collage. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez faire un petit peu de stop motion à partir d'images, mais je m'y suis pas trop risqué. Donc, ça se présente de manière très simple. Je ne vais pas faire la démo ici parce que je ne me suis pas connecté et que je suis à la bourre. Vous voyez, vous avez l'image sur votre écran et les options à gauche. Et on va très, très vite. Remarque enfin, je veux bien essayer de faire quelque chose, mais j'ai peur des loops vidéo également. Ah, la fonction trim aussi, qui est très souvent demandée. Hein, donc, le trim, c'est tout simplement rogner une vidéo hein, sur les
deux. Donc là, c'est avec tes propres vidéos de...
Oui, tout à fait. Alors, il faut les... Bien sûr, c'est le même problème. Hein, il faut les mettre en ligne. Je n'ai pas vérifié s'il y avait énormément de limites.
D'accord. Tu n'as pas besoin de passer par un... Un YouTube ou un Dailymotion comme ça.
Non, tout à fait. Alors tu peux, hein. Tu vois là, j'ai choisi le fameux utilitaire pour faire des mimes. On voit bien la fonction upload, donc pour les non anglophones, mais quand même, je pense que ça tout le monde connaît le téléversage, téléversement, téléverser le fichier de votre ordinateur, ou sinon carrément, bien sûr, à partir d'une adresse. On voit qu'il y a des vidéos d'exemple, on peut essayer. Ben vous voyez très bien. Là sur l'histoire du mime, j'ai mis quelques secondes d'une vidéo. Là c'est sur une vidéo d'extrait. Je vais pouvoir éditer ici. Un petit quelque chose rapidement, un autre texte, blablabla. Voilà, c'est très marrant. E-teachers. Ah non, attendez, je vais faire une blague. Jeff se réveille. Voilà. Voilà, très bien. Hop, Jeff se lève. C'est encore mieux. Et voilà. Bonjour, mon Jeff. On change les fonctions de texte. Vous voyez, bon, bien évidemment, ça, c'est assez, assez simple. Mais là, j'ai fait en 3 secondes un petit mime. Donc, pourquoi pas, sympa à utiliser avec les élèves. Moi, je vois plus en fait comme un outil pour que les élèves fassent un peu de montage. Parce que souvent, en ce qui me concerne, quand je fais des tâches finales où les élèves vont avoir des petits écrits à faire, des choses comme ça, pour les mettre un peu en, de manière animée, c'est tout de suite la grosse armada. Voilà. Là, c'est assez simple, c'est très facile et ça permet d'aller très vite. Voilà.
C'est super intéressant. Hein. Ouais.
Il est vraiment. Et puis, il est très moderne. Alors, j'ai pas essayé la version. J'ai pas essayé s'il était responsive, s'il y avait une vidéo, une version, on va dire.
Mobile.
Mobile. Je pense que oui, mais je l'ai pas essayé. Voilà. Donc, une autre idée pour monter, voilà, des collages très simples avec des vidéos côté ou dessus. C'est plutôt pas mal, ça aussi. Hein, donc, des GIFs, des images. Pareil, à partir d'une image qu'on upload ou directement d'une URL, on peut choisir des options de cropping, donc de retouche de taille en 16/9. Et c'est parti, un point. Vous voyez, donc c'est vraiment simple. Par contre, encore une fois, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire du montage professionnel, bien évidemment.
Oui, mais tu as quand même le cut.
Oui, le trim, le cut, ajouter des titres, ajouter des sous-titres, faire une vidéo en reverse, donc à l'envers, en boucle, quelques filtres assez simples. Voilà. Ma foi, ce que ça peut donner et
bon, à tester.
Il,
ouais.
Il présente vraiment comme ça. C'est ce qui vous prend d'habitude des heures sur iMovie pour qu'ils prennent comme exemple. Là, c'est réduit à quelques clics. Aucune installation, aucun mot de passe, bien évidemment. C'est très intuitif. Marche sur tous les systèmes, bien évidemment. Et il précise ici on your phone and computer, donc sur le téléphone a priori. Voilà, écoutez, ma foi, à essayer.
Tu l'as peut-être dit, pas d'inscription, c'est ça alors ?
Aucune inscription. Il propose quand même ici un sign-in. Je vois pas bien. Je pense que ça doit être pour les sauver.
Pour les sauver. Hein.
Parce que si là j'y vais tout seul, comme on l'a monté vidéo collage, je peux choisir.
Tu perds ton projet, quoi.
Mais je pense que je perds le projet. Voilà. Mais bon, à la limite, vu la simplicité de la chose, ça peut aller très rapidement.
Super intéressant, même, tu vois.
Voilà pour cette petite démo de ce site Capwing.
Excellent. Truc et astuce. Personne aujourd'hui, pas de truc, pas d'astuce.
Non, on n'est pas.
Ok. Guillaume, tu n'avais rien avant qu'on le passe aux actus ?
J'allais boire une bière. Non, pardon.
Tu veux pas les bières, c'est ça ? Parce que c'est les vacances. Non, c'est
une grosse journée. Allons-y. Ah.
Si tu savais, moi, j'arrive même pas à lever les bras. J'ai coupé toutes mes haies, j'en peux plus.
On parle vraiment de nos extérieurs, là, ou... Parce que moi, j'ai roulé, j'ai semé, mon petit, parce que tu comprends, après, c'est compliqué, mais mes pigeons, il y a des pigeons qui viennent bouffer les
Ah oui.
Donc, je leur ai acheté des cailloux dessus.
Ouais. Toute la journée, ajouter des cailloux. Bien. Allez, c'est moi qui attaque sur l'actu.
On attaque, allons-y. Hein.
Un article, moi j'ai découvert un article sur le site qui s'appelle nextimpact.com qui nous dit l'éducation nationale songe à faire de la tablette une fourniture scolaire à part entière. Donc l'article commence par rapport à un constat un petit peu du plan numérique qui a été créé par sous François Hollande, en tout cas en France, qui coûterait près de 240 millions d'euros par an pour équiper tous les donc c'était tous les collèges, tous les cinquièmes de tablettes. Et l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas réfléchit en tout cas à demander aux collégiens d'apporter leur propre matériel. Ah, on commence à voir un petit peu le fameux biode qu'on entend un petit peu partout. Mais en tout cas, on parle de plus en plus du biode, mais on parle surtout de peut-être de au lieu de renouveler ces tablettes-là, c'est de peut-être donner une genre d'allocation, je ne sais pas, en tout cas, un budget à chaque élève pour acheter peut-être du matériel qu'on aurait défini à l'avance. C'est aussi une nouvelle chose qu'on n'avait pas entendu parler, en tout cas, de ce principe-là, parce qu'on est en train de se dire que finalement c'est bien, on équipe 800 000 tablettes chaque année, c'est bien, mais au bout d'un moment ces tablettes-là, elles vont devenir obsolètes, il va falloir les rechanger. Donc c'est un cercle vicieux, on va jamais s'en sortir. Est-ce qu'il faut arrêter le renouvellement des salles informatiques dans les collèges et lycées et passer par des tablettes? Voilà. Donc c'est la piste du biode, en tout cas que nous parle le Mathieu Gendron, donc le directeur du numérique pour l'éducation. Et on pourrait dire que ça va devenir une fourniture scolaire à part entière que l'élève amène, comme sa calculatrice ou sa tenue de sport. Voilà. Donc là, c'est en pleine réflexion. Il travaille en tout cas, il dit en ce moment là-dessus. Parce que imaginez que si on fait du vrai biode ouvert à tout, ça veut dire que les élèves vont venir avec de multiples appareils. Et pour les enseignants, et pour la technique de sécuriser, en tout cas, ça devient très compliqué. Donc pourquoi ne pas avoir en fourniture scolaire un achat de tablette ou un achat d'ordinateur, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est un sujet qui est discuté au sein de groupes de travail avec plein de collectivités territoriales.
Ah, il y a Kedem qui a dû te dire un truc, non?
C'est ça, ouais. Il nous dit que Mathieu Gendron, c'est vrai que part chez Amazon, donc il veut dire qu'il va peut-être, en tout cas, quitter le gouvernement.
Intérêt, alors oui, et après, il pourrait vendre une tablette Amazon.
C'est ce qu'il se dit. Mais en tout cas, Jean-Michel Blanquer, dans cet article-là, Jean-Michel Blanquer il n'y avait pas que Mathieu Gendron là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, voilà c'est juste un groupe de travail. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune chose, mais peut-être qu'on s'ouvre sur un biode un petit peu différent du biode qu'on imaginait tous, où on n'a rien à gérer, les élèves importent leur propre matos.
J'arrive pas à voir comment ça peut être possible, alors à long terme peut-être, bien sûr, mais à moyen terme, voire à court terme impossible. À moyen terme, je vois pas comment, sachant que on voit déjà comment le plan numérique avec les tablettes s'est fait, c'est-à-dire que même dans une même académie, il n'y avait pas de politique commune entre les différentes collectivités, pour équiper, en fait. On était bien placé pour le savoir, Jeff, moi aussi, que finalement, des établissements choisissaient ces tablettes de les garder en établissement et de les sortir que quand il y en avait besoin, d'autres de les laisser, au contraire, à tous les élèves, comme normalement ça aurait dû être le cas, etc., etc. Donc là, je ne vois pas comment, donnant une subvention, on peut à la fois garantir que tous les parents jouent le jeu et l'achètent, parce que s'il faut le forcer à ce moment-là, autant les acheter pour eux. Ça règle pas le problème non plus de la.
Les calculatrices, le collègue de maths, il demande bien, je veux la TI, machin, voilà, il faut acheter d'accord. Celle-ci et pas une autre. Donc pourquoi on pourrait pas le faire?
D'accord. Écoute, ma chère et tendre épouse qui a pris peut-être le relais avec l'endormissement de mes enfants à ce moment même et qui est surtout prof de maths,
qu'on salue,
aujourd'hui on est moins là-dedans, on est plus sur un type de calculette plus qu'une marque elle-même. Donc après ça pourrait fonctionner aussi de toute façon avec les tablettes, on le sait bien, je veux dire aujourd'hui. On peut quasi tout faire, à part quelques applications propriétaires sur une des marques. Globalement, on peut s'en sortir comme ça.
Là, on parle du biode en général. Ça peut ne pas être des tablettes non plus. Ça peut être, voilà.
Oui, d'accord. Mais à l'heure où on demande de ne plus faire de différence finalement de traitement en fait, entre les élèves et que ce soit le plus simple possible, voilà, si en plus on donne une subvention en disant « débrouillez-vous », j'ai du mal à voir comment ça pourrait… Je dis pas qu'il y a pas matière à réfléchir là-dessus, hein. Mais ça me donne aussi surtout le sentiment de se dire encore une fois, on se défausse en fait un peu sur bah, démerdez-vous quand vous fuit de le fric, démerdez-vous. S'il y a du fric à donner, pourquoi dans ce cas c'est pas l'institution qui s'en occupe en fait. Je comprends pas l'intérêt de financer les familles.
D'accord. Mmh. D'accord.
Quelle est la plus-value en fait de dire ça ? S'il y a du financement qui est prévu, pourquoi c'est pas la collectivité ? Pourquoi c'est pas l'institution qui s'en charge à ce moment-là ? Je vois pas si ce n'est juste de dire, si ce n'est juste pour répondre à des questions logistiques qui seraient peut-être plus simples du point de vue de l'éducation nationale en disant, bah, on se défausse, du coup on n'a pas à gérer ça, on donne l'argent et après voilà. Mais si la ouais. tablette casse, si la tablette, les tablettes ont plus de batterie, on les voit toute la maintenance, comment ça se gère tout ça quoi ? Mmh.
C'est vrai.
Ça me paraît, ça me paraît un peu surprenant ce genre de. Voilà.
Alors, Kedem sur le chat nous dit financer les familles pour les plus démunis. Lui, il dit. Il dit que ce serait voilà une des solutions.
Oui, ouais. Mais justement, dans ce cas-là, voilà. Pourquoi c'est pas du matériel qui est acheté, qui est prêté pendant 4 ans ou, c'est quoi l'idée ? C'est de fournir un outil de travail pour la scolarité au collège ou au lycée ou si c'est de les aider d'un point de vue social pour qu'ils aient une tablette à la maison ? C'est ça ce que je comprends pas, on n'est pas sur le même paradigme là. Financer les plus démunis, moi je suis tout à fait d'accord, c'est pas la question, mais on n'est pas sur la même chose en fait. Quelle garantie on est qu'ils utilisent l'argent pour ça ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aura d'abord une garantie ?
D'accord, c'est là-dessus. Non, je te suivais pas là, oui, je te suivais pas, d'accord. Sur la garantie de l'achat. D'accord, ok. Ouais.
Bah, c'est voilà,
après, c'est comme la location pour les fournitures scolaires. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas si.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a subvention qui est donnée.
C'est pas un problème propre aux tablettes.
S'il y a subvention pour les familles pour acheter des tablettes, si dans ce cas-là, ils doivent absolument acheter des tablettes et qu'ils doivent le prouver, entre guillemets, je sais pas, en disant bah, à telle date, vous avez eu l'argent, il faut l'acheter, il faut qu'on la voie, bah, dans ce cas-là, pourquoi on le fait ? Pourquoi c'est pas l'éducation, l'institution qui le fait tout de suite ? Point barre. Je vois pas l'intérêt directement. Après, c'est les modalités, oui, nous dit Kedem. Bah oui, exactement, c'est des questions de modalités. Je sais pas, je suis un peu. Attention, hein, je suis tout à fait pour le fait que ça soit aidant et financé, bien évidemment, pour que les enfants soient équipés. C'est juste sur la modalité, justement. Je vois pas vraiment ce que ça change de donner l'argent et de dire débrouillez-vous et quid ensuite quand ça tombe en rade. Enfin voilà, je sais pas trop.
Voilà.
En tout cas, c'est une.
Même si Monsieur Gendron s'en va du gouvernement, quid de ce groupe de travail, voilà.
Bon, eh ben.
Nous verrons. Seb, c'est toi sur la liste, je crois. Tu enchaînes.
Oui, je vais enchaîner. Vous allez voir, je me suis trouvé un petit article là. En ce moment, il tourne sur Twitter. C'est un article. Oh non, pourquoi ? Non. Un article qui a été publié sur un petit journal qui s'appelle Libération. Il n'est pas trop connu comme journal.
Ouais, c'est un fanzine, je crois.
Voilà, c'est un fanzine, exactement. Bon, le titre est là. Ça s'appelle Contre le numérique à l'école.
Ah.
Voilà, bon, ça commence bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est par un collectif d'enseignants.
Ah.
Voilà, bon, c'est un peu comme lire les commentaires sous les vidéos que vous aimez bien.
On avait eu un article comme ça que j'avais parlé à un moment.
Oui,
ouais,
oui, je me rappelle.
Sur un bouquin, c'était.
Vous voulez que la dame, elle vienne, elle n'avait jamais voulu, je me rappelle. Ouais.
On ne l'a jamais voulu, enfin, on n'a pas plus contacté que ça, mais.
Non, c'est vrai.
Donc, ben justement, il parle du plan numérique dans cet article, avec l'idée de la disparition des manuels scolaires et l'achat obligatoire d'ordinateurs portables, de tablettes pour les élèves. Ils disent que ces expérimentations se multiplient, ces plans numériques, etc., et que eux, les enseignants qui sont donnés, se disent signataires d'un appel, sont réfractaires. Voilà, sont réfractaires parce qu'ils disent ces promesses de renouvellement pédagogique par les technologies innovantes entre guillemets relèvent en réalité d'un renoncement à la pédagogie. Alors, en fait, je vais vous le dire, hein, sincèrement, je n'ai pas pris cet article pour cet article parce que passé la première minute d'énervement, je l'ai lu, je me suis dit…
Ça a l'air de te gonfler, ouais, déjà. Ouais.
Oh, pièce, non, mais si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a en ce moment, c'est ça, quoi. Je me suis fadé du Kanda là, avec sa connerie d'autiste par les écrans. Je me suis fadé du Arte fait un peu n'importe quoi et… Avec la collègue qui a un site là, justement, qui était. Alors, je me demandais d'où je connaissais une collègue qui, qui a laissé une équipe d'Arte venir filmer dans sa classe. La collègue, elle est super impliquée dans le numérique. Elle a réussi à l'incorporer à sa pratique de classe en maternelle, avec une vraie pédagogie, une vraie réflexion derrière. L'équipe d'Arte vient et l'inclut dans un truc qui dénonce le numérique, justement, à l'école, en disant, oh oui, mais enfin, quand même, c'est pour le loisir, pour la facilité pour l'enseignant. C'est passé dans, je crois que c'est dans Vox Pop, le truc d'Arte. Et la collègue, elle tient un blog. Et elle est passée chez Nipédu, d'ailleurs. C'est de là que je la connaissais. Et c'est elle qui a le site Oh, punaise.
Quoi son nom?
C'est Véronique.
Fèvre.
Fèvre, voilà. Merci.
Ah, je retrouverai. D'accord.
Voilà. Et donc, ça m'a énervé. Alors, je continue l'article merveilleux. Avec des poncifs, donc le renoncement à la pédagogie parce que tu utilises le numérique. Et puis j'aime bien le numérique. C'est le truc qui veut rien dire. Le temps devant les écrans, la dépendance aux objets numériques, les méchants industriels qui ne cherchent qu'à vendre du numérique et le pompon. Les cadres de la Silicon Valley l'ont compris depuis longtemps en protégeant leurs enfants des écoles.
Ah oui, leurs enfants, ils vont dans des écoles. Oui, tout à fait.
Waldorf. Mmh.
Alors, ça n'a jamais été prouvé. Hein, je veux dire, enfin, ça n'a jamais été prouvé. C'est un serpent de mer en plus. Enfin, bref, petit aparté, mais ça.
Oui, mais ça a été repris dans moult articles.
C'est méconnaître complètement que c'est une école à 16 000 dollars l'année. C'est une école où, mais en France, il y aurait des écoles comme ça, on hurlerait. C'est sur un ce soit des ah oui, ils ont pas, ils font de la couture, ils font du bois. On en avait parlé il y a longtemps déjà. C'est une autre philosophie, mais ils sont là-dedans parce que c'est des écoles à la mode là-bas. Puis point barre, quoi. Ça fait bien d'avoir ces gamins là-bas. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et puis, ce qu'il y a de formidable. J'ai l'impression d'entendre des trucs qui ont dû passer à l'époque où la télé est arrivée et où on a dit on va mettre la télé à l'éducation. Et d'un côté, tu en avais certains qui te vendaient ça comme si c'était un truc qui allait tout changer. De l'autre, tu avais ceux qui disaient que c'était une honte et que les livres, il n'y avait rien de mieux. Et au milieu, j'imagine la tripotée d'enseignants qui l'a utilisé, trouvé des trucs sympas à faire, mais... C'est jamais dit qu'ils allaient renoncer à tout et que ça allait changer entièrement. Moi, le numérique, comme on dit, on ne l'utilise pas pour le numérique. Si tu renonces à la pédagogie, que tu sors une tablette, bon courage, mon coco. Forcément, si les enseignants qui sont signataires de ça l'ont fait, je comprends qu'ils renoncent au numérique. Et alors, le côté mercantile aussi, je vais faire une petite aparté dessus. Le côté mercantile, bien sûr qu'ils cherchent à vendre du matériel, les gens, des programmes, des applications, mais bien sûr. Mais il y a des méchants vendeurs qui vivent grâce à l'éducation nationale depuis des décennies. On appelle ça les vendeurs de manuels. Personne n'est là, ils ne sont pas dénoncés. Là, il n'y a pas l'appel de truc muche machin qui dit on renonce au manuel car ce sont des méchants vendeurs mercantiles qui ne pensent qu'à les renouveler. En plus, ils les renouvellent à chaque fois, vous vous rendez compte. Oh, la barbe. Mais là-bas. Et ce qui me fatigue le plus en définitive, c'est que ce n'est pas paru sur un blog, c'est que c'est paru dans Libération. Et qu'en ce moment, c'est ça. C'est que à la base.
Est-ce que, en toute honnêteté, ça t'étonne que Libération propulse
ça? Non, mais ça me gonfle. Tu vois, ça m'étonne. L'étonnement, je ne suis plus étonné par rien. Arte, ça m'a étonné. Tu vois, le coup de faire un truc putaclic, hein, comme ils aiment bien dire sur YouTube, une émission putaclic.
Pour les gens qui regardent Arte, tu vois, ça va tout à fait avec leur ligne, en fait, finalement. Enfin, pourtant, moi, je regarde aussi Arte, je ne l'ai regardé pendant des années, mais je reconnais que je m'éloigne un peu. Et Libération, c'est pareil. Mais clairement, sensibilité politique qui, a priori, en tout cas, oui, non, pas a priori, il se positionne plutôt du côté des écrits de Libération que du Figaro, c'est évident. Mais je reconnais qu'il y a tout ce mouvement-là que tu décris, c'est exactement ça, quoi. Moi, je me rappelle, écoute, lors de la des, des formation pour la réforme des collèges qu'on a faite il y a 2 ans, où on intervenait en tant que formateur. Des fois, des prises de bec qu'on a eues avec certains collègues quand on intervenait une demi-journée sur les 3. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jeff, quand on faisait ça. Mm-hmm. Des fois, face à des collègues qui, quand on parlait justement du plan numérique, des choses comme ça qui montaient sur le client. Je me rappelle d'une collègue de français qui était vent debout, qui hurlait « Mais enfin, l'outil scripteur, que fait-on de l'outil scripteur dans tout cela ?» Je vous jure, je m'en passe.
C'était comme ça. J'ai bien une réponse, mais c'est...
Mais voilà, mais on n'a jamais dit que.
On en a eu des cas comme ça.
Virtuel sur la tête et qu'ils allaient écrire. On a ce débat tout le temps. Là où je suis d'accord, ce qui est absolument gonflant, c'est que ce soit porté par des journaux aussi forts, aussi connus et qui n'est pas à la limite. Je veux dire, ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Il faudrait à la limite, bah, tiens, faisons-le, sub. Écrivons un article à Libération à l'inverse en disant pourquoi justement il n'y a pas. Et je pense qu'il y aurait aussi des gens qui auraient des tonnes de choses à dire et c'est vraiment important de contrebalancer ces points de vue. Mais tu as raison, on entend beaucoup ça. Mais on entend beaucoup ça parce que, à l'inverse, je fais aussi ce constat-là dans la vie de tous les jours. C'est aussi la catastrophe. Il faut dire ce qu'il est. J'étais encore hier à Paris. Voilà, tu ne prends pas un métro sans avoir tout 99% des gens qui, dans le métro, sont sur leur téléphone. Et c'est comme ça tout le temps. Et... je peux comprendre aussi que de l'extérieur, on se dit, putain, mais si en plus à l'école, qui est censée être un sanctuaire, voilà. Mais sauf que tu as envie de dire, ce qui m'étonne, c'est que ce sont des professionnels qui ont rédigé ça, quoi. Voilà. Que les gens à l'extérieur puissent penser ça, j'arrive à l'entendre. Et c'est à nous, peut-être, de dire, attention, on va former justement un autre usage, à montrer autre chose. Maintenant que des pros écrivent ça, ouais, c'est un peu, peut-être un peu dérangeant, quoi.
Bah, que des pros écrivent ça dans un journal où ils devraient avoir vérifié, etc., qu'on te ressasse toujours le même serpent de mer. Puis tiens, tu vois, il y a la grève des cheminots en ce moment. Combien de fois on leur a sorti à eux qui touchaient la prime charbon, quoi. C'est,
qui a été abolie en 1974, hein, faut pas l'oublier.
Il y a des idées comme ça qui sont rampantes, qui sont gonflantes. L'idée que, ben, on arrive, on a un stock de tablettes, on les lâche et on fait du numérique. Mais ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire. Et ce qui, tu l'as dit, le problème, c'est que ce sont des collègues qui ont écrit ça. Ce sont des gens qui sont supposés enseigner à des gamins et avoir un recul sur leur pratique. Là, le recul sur la pratique, sur l'utilisation d'un outil qui est autre que le livre, il a l'air nul, quoi. Il a l'air nul.
Tout à fait. Je pense qu'on n'a pas fini avec ça. Hein, et
non, on n'a pas fini.
Et je crois que non seulement on n'a pas fini, mais moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment qu'on arrive dans un, comme beaucoup sur beaucoup de plans de notre société, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de milieu. On a du zéro et on a du un. Mm-hmm. Et au milieu, ben, il n'y a plus. Donc, en gros, on va finir par arriver, à mon avis, dans des équipes où ça sera absolument, ça sera les amiches, quoi. Hein, faudra revenir à l'encrier, à la plume et puis à la blouse. Et à l'inverse, dans d'autres bahuts, et aussi on en voit, il faut dire ce qu'il est, des gens qui ont du numérique et qui font du numérique pour le numérique. Et moi, le nombre de fois où je vais au fond d'une salle et je vois des cours en ce moment où je dis, mais t'aurais fait ça sans rien du tout, à l'oral, ça te prenait 3 minutes, c'est plus efficace. C'est vrai aussi. Et je crois que c'est toute la question de la formation dans tout ça. Encore une fois, on en revient toujours au même problème. On a donné des outils aux gens, sauf qu'on a mis une goutte d'eau dans la formation et on est bien placé pour le savoir par rapport à tout ce qu'il y aura à faire. Et on épuise les formateurs et les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils disent, ah ben, on n'a eu qu'une demi-journée de formation. Ben ouais, alors qu'il en faudrait, une semaine pour ces outils qui débarquent, quand toutes les tablettes et tout ça. Voilà. Donc, on n'a pas fini. Ouais. Et je crois qu'il va falloir tenir le coup et faire de la pédagogie avec les collègues, avec les parents et être aussi certain de ce que des plus-values qui sont apportées quand même par l'outil.
Eh oui.
Tout à fait. Kedem qui nous cite SAMR, justement.
Oui, hein, tout à fait.
C'est vrai qu'on pourrait en discuter là-dessus. On pourrait faire une émission là-dessus, sur ce principe-là.
Je suis perdu, moi, là. C'est quoi SAMR?
Ah. C'est 4 degrés d'intégration d'un outil numérique dans ta pédagogie.
Ah, d'accord.
La substitution, voilà. L'augmentation, la
redéfinition.
Voilà. Attends, il y a le mot.
Modification.
Modification et redéfinition, voilà.
En fait, c'est justement ce que tu viens de.
D'accord.
C'est ce que tu venais de dire tout à l'heure sur faire du numérique pour du numérique, quoi. Voilà.
Si tu veux, par exemple, moi, pour expliquer ça, c'est les collègues qui se limitent à prendre, qui prenaient un ordi au début et qui faisaient faire uniquement des exerciceurs. Bah, t'es juste dans la substitution, il n'y a pas grand chose de plus, quoi. Voire même dans ce cas-là, il y a du moins, parce que le temps de démarrer l'ordi, etc. Et voilà.
Donc voilà. Mais c'est vrai que on pourrait peut-être en discuter là-dessus. Allez, on enchaîne avec ces deux articles un petit peu.
Oh.
Voilà qui font
article, pas. C'est méchant pour les articles.
tu avais quelque chose ou j'enchaîne
Vas-y, enchaîne. Oui. Enchaîne.
Moi, je vais parler de TADA. TADA, je ne sais pas comment ça se dit. TADA, qui est, alors justement, ça tombe bien, hein, on va parler de numérique, Tweet Class, Activité et Dispositif Associé. En fait, c'est Ludovia, là, en Ariège, vous savez, au mois d'août, toujours à Aix-les-Thermes, ce grand, je ne sais pas si c'est un salon, un colloque ou non, ou, voilà, une manifestation en tout cas sur l'école numérique, hein, qui propose de cette fois-ci de rassembler en tout cas tous ces collectifs enseignants qui utilisent le numérique pour travailler ensemble, pour faire de différents projets, hein, dont les Tweet Class. C'est pour ça que TADA s'appelle Tweet Class. Et, certains, pour en citer quelques-uns, on avait reçu, je sais pas si tu te souviens, ceux de Tablettes et Survêtements qui avaient fait Défi Coding, oui, par exemple, hein, voilà, qui avait fait ce principe Défi Coding où on pouvait s'envoyer de classe en classe des petits défis de code. Et puis, il en existe plein d'autres, hein, donc certains que je connais pas, je vais les citer tous, hein. Ils m'envoient pas. Anime Histoire, Aplati Tour, les ceintures de compétences, si je connaissais, Défi Inférence, Math Envie, Sensei Tweeteku, Tweekte, les Tweetcon, Twinterim, Tweetlingua, Twilupo. C'est pour l'instant ceux-ci qui se sont manifestés en tout cas pour se retrouver en vrai sur Ludovia. Donc dans ce principe TADA, hein, qui sera en tout cas pour l'instant 12 collectifs, hein, qui pourront avoir un endroit à eux justement pour se rencontrer, pour se fédérer en tout cas tous ces projets-là. Si vous voulez en tout cas participer, si vous êtes déjà participant de ces collectifs-là et que vous voulez être sur Ludovia pour ce principe TADA, vous avez un petit formulaire qu'on vous mettra dans les notes de l'émission pour vous préinscrire. Et s'il y a d'autres collectifs qu'on connaît peut-être pas, qui sont pas encore cités dans les 12 là, vous pouvez aussi proposer votre collectif, hein, et ils seront examinés en tout cas par l'équipe de Ludovia dessus. Je vous donnerai le petit formulaire, mais sinon vous le trouvez aussi sur j'ai perdu le lien, mais sur Ludovia. J'ai perdu le lien. Bon, tant pis. Sur Ludovia, vous retrouvez aussi le lien. J'y mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Donc, TADA, c'est une petite initiative, en tout cas, de Ludovia pour rassembler, en tout cas, tous ces collectifs d'enseignants. Voilà.
Très bien.
Et... on enchaîne, plus personne ne parle là. Tiens,
Oui.
Ce qu'on fait en ce moment.
Ouais, ce qu'on fait en ce moment, et qui veut parler de pizza?
C'est moi. Voilà. C'est mon... voilà. Pizza, je le présente. Programme international pour le suivi des équipes des élèves.
Hommage.
Pourquoi je parle de pizza? Parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être administrateur test de pour faire passer pizza.
Oh oui,
wow.
Et ça serait bien passé. Oh, pardon.
On dit les établissements.
J'ai trois établissements, dont même des établissements privés, hein, donc il y a pas de, voilà. PISA, donc c'est en tout cas une enquête internationale des pays de l'OCDE, je crois, hein, uniquement, voilà, où chaque fois qu'il y a une enquête PISA, la France, on n'est pas bon, voilà, etc. Donc je vais m'occuper de cette partie-là, de faire passer à des élèves, donc c'est des élèves de 15 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est soit troisième, soit seconde. Et c'est quand même une sacrée usine à gaz, quoi. C'est une sacrée usine à gaz à faire passer. On a eu une formation en ligne. Alors c'est soit sur place à Paris, soit en ligne. Moi j'ai dit je vais la faire en ligne, mais 6 heures en ligne. Voilà, c'était imbuvable. Donc voilà, je vais faire passer ça, je vous en dirai un peu plus, hein. C'est une sacrée organisation, c'est vachement cadré, hein. Ça rigole pas, comme on va dire. On peut avoir des contrôles pendant les tests pour voir si on respecte ça, hein. Je sais pas si tous les pays sont dans ce cas-là, mais normalement, c'est vraiment très, très sérieux, en tout cas, comme truc, hein. Je crois 3h45, hein, les élèves sont pris dans ces tests PISA, hein, qui sont pratiquement tout sur informatique, pas tout, il y a une petite partie aussi qui est sur papier, je crois. Donc voilà, donc c'est le grand en ce moment, contacter les établissements, se mettre d'accord. Voilà, les salles d'informatique, eh ben, n'ont souvent que 20 postes. Donc, ben merde, c'est 30 élèves. Comment on fait? Il faut faire une deuxième date. Est-ce que je peux prendre quelqu'un dans l'établissement? Ben non, il faut que ce soit quelqu'un hors établissement. C'est une grosse... Voilà. Je m'amuse bien en ce moment là-dessus.
Oh, ça a l'air. Ça fait envie, en tout cas.
Ouf. Voilà.
On peut parler de PISA ou c'est interdit?
C'est-à-dire, tu veux faire quoi? En choix?
Non, je voulais être sérieux deux minutes là.
Ah, vas-y.
Ouais, je trouve ça. Donc, rappelle-nous, on est d'accord, ça teste maths, français et.
C'est tout.
Je crois que c'est ça, oui. Langue maternelle et maths, oui, il me semble. Ouais.
Je sais plus exactement le contenu.
Voilà, moi j'avais beaucoup parlé de ça à l'époque où on avait déjà su qu'on était très mauvais, donc les meilleures mémoires sont les Coréens, les Sud-Coréens. Et je ne sais plus quel autre pays. Hein, pour rappel, les Coréens du Sud, enfin les Sud-Coréens, ont leur journée d'école et ensuite le soir des cours particuliers dans des instituts privés très très bien organisés jusqu'à point d'heure pour en faire des bêtes de travail. Voilà. Donc effectivement, nous on n'est pas bons, mais PISA mesure à peu près tout. C'est ce que je déteste, moi, dans l'école, quoi. C'est-à-dire uniquement de la connaissance. On mesure absolument pas le bien-être des enfants. On a leur créativité, leur envie de venir en classe. Parce que mine de rien, même si on a des ados pénibles la plupart du temps qui font tirer la gueule en classe, on a quand même des élèves qui sont contents de venir à l'école.
Et je suis pas sûr de ça, sur le connaissance. Je sais pas trop le contenu, moi. Si
C'est
uniquement sur les connaissances
Il me semble. Oui, enfin, en tout cas, c'est sur des matières, on va dire... comment dire, pour pas mettre
majeur,
enfin voilà, les fameux au conseil de classe ont dit bon allez, à part la musique, la techno et le PS et l'art plastique, hein, parce que ça il y en aura plus l'année prochaine, donc on va quand même rester sur les fondamentaux, hein, voilà, tu sais le truc où finalement t'as envie de dire bah du coup fallait peut-être réduire à l'enseignement à rien, à trois matières alors, mais bon bref, voilà, donc c'est ça en fait qui m'embête un peu. Je dis pas bon le classement il est là, mais je crois qu'il faut pas se flageller quand on dit que la France est dernière. Voilà, ce sont des indicateurs. Ça donne une indication de certains paramètres, mais ça n'en dit pas plus que ça, quoi. Et encore une fois, on en entend parler de partout.
Mais
voilà.
Quand j'aurai fait passer les tests PISA, j'en reparlerai un petit peu des contenus,
oui,
etc. D'accord ?
Ok, très bien.
Après je fais juste une petite phrase. Les pays qui réussissent beaucoup, généralement, hormis ceux qui transforment leurs gamins en bêtes de concours, sont des pays qui ont mis en avant la formation des enseignants. Bon, après, je dis ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez.
Ah, là, j'en sais rien, tu vois.
Si, ah ben ça, je peux te le dire. Il n'y a pas de miracle.
En Corée aussi, ouais, je ne sais pas.
Oui, non, mais
tu sais quoi, formation en mathématiques, Singapour, 300 heures. D'accord. Pour les enseignants du primaire. 300 heures. Formation.
C'est une réalité, ça. C'est une réalité sur la formation.
C'est-à-dire que toi, on te fait une formation. Toi, tu arrives à une formation, on te dit bon, alors les pays qui sont très performants, voilà. Par exemple, cet exemple-là, ils ont énormément d'heures de formation. Blablabla. Alors nous, on vous a fait une formation de 3 heures. Et là, tu fais un arrêt sur image. Tu dis alors attendez, là, entre ce qu'on m'avait dit avant et là, il y a pas.
Non, on va s'en sortir comment là. 12 heures la didactique des maths en deuxième année de master, mais. Comme les langues, c'est 12 heures pour chaque matière. Non, mais bien sûr, mais c'est une réalité. À côté de ça, dans les nouvelles maquettes, il y a aussi d'autres choses. Enfin, voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà. C'est, bon, on ne va pas avoir ce débat maintenant, mais je suis assez d'accord avec toi, en tout cas, sur...
Non, mais tu sais que tout à l'heure, on parlait de formation pour le numérique. On parle... De toute façon, il n'y a pas...
Oui, on a rien.
Enfin, bon. Donc, bien. En plus, c'est pas moi, là, après.
Je vois que ça vous a passionné, PISA, c'est bien.
Ah, écoute. Hein.
Tout nous passionne.
Donc, vas-y, Steve. Rapidement, pour vous dire que ben, je suis de... Parce que moi, je travaille en ce moment, messieurs. Hein, je ne suis pas en vacances. Voilà. Je vais au salon qui s'appelle Code & Play. Alors, c'est un salon qui regroupe un peu... des tas d'activités du style réalité virtuelle, imprimante 3D, initiation, la programmation, etc. Donc, moi, j'y vais pour présenter ce qu'on a réalisé avec les bibottes dont je vous ai parlé la dernière émission, une petite chorégraphie que mes élèves ont réussi à concocter.
Vas filmer ça, j'espère.
Alors, moi, j'ai filmé la chorégraphie déjà. La chorégraphie, je l'ai déjà filmée, j'en ai filmé plusieurs.
Et donc là, tu vas la faire en direct, c'est ça?
Et alors là, je crois bien que je suis supposé la faire en direct. Ça va être rigolo, je pense.
En live, cool.
Voilà. Mais en tout cas, moi, je dis, enfin, ils ne les écouteront pas, ils ne le savent pas, mais ils m'ont bien épaté, mes élèves, là, pour le coup. Parce que franchement, moi, je n'étais pas super enthousiaste quand j'ai vu les bestioles, mais c'était sympa à regarder. Franchement, sympa.
Bon, tu nous partageras ça quand même.
Oui, bah, écoutez, je ne sais pas du tout ce à quoi ça ressemble. C'est la deuxième édition, c'est la première fois que j'y participe, donc on verra ce que ça donne.
Bon, tu nous partageras aussi ta petite vidéo de chorégraphie.
Ouais, sans problème. Ça, je
pense. Ça marche. C'est cool. Code and Play, alors. Je connaissais pas, moi, tu vois. Tout à l'heure, on en parlait en off. Je connaissais pas du tout Code and Play. Écoute,
ça débute, donc ça a le temps de se faire connaître.
Et qui c'est qui organise ça, tu sais ou...
Alors non, j'ai le nom de l'organisatrice en tête, mais je sais plus la structure qui est derrière. Donc, je vous refais un retour là-dessus, la prochaine.
Allez, ça marche. Bon. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, à part coucher tes enfants, Guillaume?
Pas grand-chose. Je suis...
Et planter ton gazon.
Je suis en vacances. Non, alors en ce moment, je fais un petit peu... je viens de lancer un travail de correspondance que je fais assez régulièrement. Mais j'en reparlerai dans une prochaine émission, puisque je retravaille à partir de la plateforme Edmodo, dont on a aussi souvent parlé. Je vous en dirai un petit peu plus bientôt. Voilà.
Ok. Bon, bah, on a fini. On va parler d'autres choses. Hein.
Allez.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pour l'instant rien mis. Hein. Je suis en train de chercher ce que je vais mettre. Donc, allez-y. Bon,
moi, je vous parlais rapidement du fait qu'un de mes réalisateurs de dessins animés, de longs métrages d'animation, parce que ça fait plus que ça.
Ah oui, c'est vrai.
Réalisateur de longs métrages d'animation est mort cette semaine.
Ah, je sais. Non, je l'ai pris, tu vois.
Isao Takahata, qui est responsable d'un de mes films d'animation. Alors, c'est très particulier le lien que j'ai avec, c'est Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, c'est un film d'animation qui vous raconte la vie d'un frère et sa sœur, deux enfants, orphelins. On est en pleine Seconde Guerre mondiale au Japon. Et il vous raconte le quotidien de ces deux gamins un peu livrés à eux-mêmes. Alors, c'est, comment vous dire, le film commence, et là, je ne vous dévoile rien, le film commence, et le héros, qui est le jeune garçon, vous dit, c'est le jour où je suis mort. Et ce n'est pas une formule. Voilà, donc c'est un film que j'ai toujours du mal à voir en entier, en une seule fois. C'est un film qu'il faut regarder quand on est de bonne humeur, comme ça, on pleure un peu moins. C'est beau. C'est beau. C'est son plus, enfin, pour moi, c'est son plus beau. Après, il a fait des trucs très sympas comme Pompoko avec des espèces de gros chiens qui ressemblent à des blaireaux, qui se baladent, qui se transforment, etc.
Ah oui.
C'est très, très fun. Conseillé pour tous les âges, hein, Pompoko, moi, je l'ai sans problème. Il a fait des tas, il était dans des registres beaucoup plus différents et son grand collègue, c'est Miyazaki, qui a fait Totoro, Mononoke, Chihiro, Ponyo, voilà, tous les grands classiques qui nous viennent du Japon et qu'on connaît bien maintenant. Et lui était beaucoup plus discret, toujours au sein du même studio Ghibli. Et franchement, ben voilà, Tombeau des Lucioles, si vous êtes de bonne humeur, comme ça je vous ruine la soirée et c'est cadeau.
Et c'est réglé, très bien. Eh bien, moi, je vais vous parler, j'ai deux choses, mais tant pis. Je vais peut-être vous parler d'une série qui, je vais passer pour un mec très en retard, puisque j'ai regardé récemment la première saison de Black Mirror. Est-ce que vous avez vu cette série?
Le cochon, pardon.
Je n'ai vu que la saison 3, moi.
Bon, Seb, je vois que tu as vu au moins la saison 1, hein, effectivement.
Ah, j'ai tout vu de Black Mirror, je les ai revus récemment en plus.
Bon, ben, très bien. Donc, moi, j'ai découvert, c'est pas que j'ai découvert, ça faisait longtemps que c'était sur ma liste. Et bon, ben voilà, déjà beaucoup de choses à faire et à regarder encore. Et à force de faire pas mal de trains en ce moment, je me suis dit, tu vas attaquer ça. Et j'ai déjà été très surpris par le format, puisque ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode, en tout cas dans la saison 1, mais peut-être que Seb, c'est le cas tout le temps, chaque épisode est indépendant, n'a rien à voir. Oui. Ils n'ont rien à voir les uns,
c'est
les uns
avec
les autres. Ce qui est plutôt pas mal.
Ouais, en fait, plus ça va dans les épisodes et plus ils cherchent à faire des liens quand même. Alors, c'est souvent des easter eggs, hein, des petites références à droite, à gauche, qui sont parfois, mais alors, dur à retrouver. Mais c'est, il y a, il y a des trucs, il y a des chaînes, il y a des pages entières d'Internet consacrées à ça. Mais il y a un épisode justement dans la dernière saison, le dernier épisode de la dernière saison, où tu retrouves des tas d'objets de toutes les saisons passées.
D'accord.
Okay. C'est à la quatrième saison, hein, je crois, ils en sont. Hein,
oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Je crois que c'est ça. Voilà, donc moi j'ai regardé ça, tout le monde m'en parlait, voilà, je ne savais pas trop pourquoi j'avais pas trop envie de regarder. Le déclencheur était c'est que j'étais persuadé que c'était une série américaine. J'adore les États-Unis. Hein,
au départ, non.
J'en ai un peu marre. Et en fait, pas du tout, c'est britannique. Et donc, pour l'accent que j'aime tant, je me suis dit, c'est parti, j'y vais. Et voilà, bah, j'ai trouvé ça tout simplement super bien, vraiment bien écrit, avec beaucoup d'idées. Et je trouve qu'en tant que geek, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, en tant que personne qui utilise beaucoup, beaucoup le numérique et qui a un rapport aux médias qui m'interpelle régulièrement, en tout cas cette saison 1 et les deux premiers épisodes en tout cas là sont vraiment très parlants et m'ont questionné beaucoup voilà, donc sans trop dévoiler hein, le premier épisode de la saison 1, c'est un premier ministre qui se retrouve dans une situation très embarrassante après qu'on lui ait posé un ultimatum très particulier. Voilà, on lui demande en fait de réaliser une action sexuelle avec un animal pour sauver la princesse, en fait, la princesse royale qui est kidnappée. Je ne vous dis pas s'il le fait ou il ne le fait pas, mais voilà, toute la réflexion, bien sûr, de le faire en direct live devant la télé pour avoir des millions de viewers, de spectateurs. Et donc, ça interroge tout ce rapport, sur ce rapport à l'image choc, au besoin de regarder des choses qui sont toujours plus dérangeantes, même si on voit dans la série qu'à un moment, le gouvernement dit, je peux pas trop en dire, c'est difficile, mais en fait, finalement, tout le monde est attiré par ça, quoi. Et dans le deuxième épisode, c'est un petit peu ce rapport-là, on retrouve un petit peu la même chose avec ce besoin de... À la fois, en fait, le spectacle dans le spectacle, quoi. On veut dénoncer ce monde-là. Ça revient un peu à l'article dont tu parlais aussi, Seb, tout à l'heure. Finalement, le monde du numérique, la dictature du paraître, toutes ces choses-là, on veut le dénoncer. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en étant dans la dénonciation, on est aussi dans le spectacle et donc aussi dans cette culture de « je cherche toujours à faire le buzz », quoi. Et c'est quand même assez dérangeant, ça demande beaucoup à réfléchir et je pense que je ferai ça bientôt avec des élèves à moi dans le cadre de mon cours d'anglais. Voilà, donc si comme moi vous êtes en retard, vous avez trop regardé des conneries de super-héros à la télé, arrêtez tout ça et jetez-vous sur la télé, franchement. Voilà, ne regardez pas la saison 22 de Arrow ou de The Flash ou je sais pas quoi, c'est nul. C'est vraiment pas bien. Par contre, voilà, jetez-vous sur Black Mirror, ça vaut le coup et ça donne un peu de quoi. Voilà, enfin, j'avais déjà vu, hein, bien sûr, vous avez déjà vu Mr. Robot, vous avez déjà certainement entendu parler de cette série, hein, c'est super bien aussi, hein, mais je trouve que dans Black Mirror, la réflexion sur le numérique est encore plus ancrée dans nos pratiques. Avec Mr. Robot, on est plus sur le complot, sur des trucs.
C'est plus dérangeant.
Voilà. En tout cas, les deux ont leur qualité, hein, bien sûr, leur défaut, c'est pas tout à fait pareil, mais Black Mirror, bonne découverte tardive, très tardive bien sûr, mais en tout cas très belle découverte et j'espère que les saisons continuent sur leur lancée.
J'en ai vu qu'une, moi, tu vois.
Non, moi j'ai vu la dernière, il y a un épisode en noir et blanc où tu suis un groupe de personnes qui est poursuivi par des robots. Alors les robots en plus ressemblent beaucoup à des robots qui traînent en ce moment sur le net, c'est des robots qui ont des robots en forme de chien sans tête.
Ah, les Boston Dynamics.
Voilà. Tu vois, par exemple, celui qui ouvre les portes. Moi, j'ai vu l'épisode et j'ai vu le robot qui ouvre les portes. Je me suis fait... Ah ouais, quand même. Là, je ne sais pas si je dois être stupéfait ou effrayé.
Ouais.
Très bonne série.
Ok. Moi, j'ai mis quelque chose, mais je ne sais même pas si... Après ça, je sais pas où tu vas en parler.
Vas-y.
Si en tout cas, c'est ça.
Hein?
Ah ben écoute, vas-y, c'est les vacances.
Ouvrir le doc.
C'est mon petit nouveau projet. Bon, allez, je cherchais le meilleur moyen de me lever. Comment me lever? J'en ai marre de ces réveils qui font à la radio pourrie. Putain, ça me saoule. J'arrive pas à me trouver un réveil doux et tu vois où je me réveille avec le sourire, tu vois, c'était mon en ce moment c'est mon dada. Et il existe plein de réveils hein qui font lever de soleil, lever tu vois de l'aube. J'ai dit je vais me le fabriquer moi. Hein. Hein.
Bah oui.
Je vais me le fabriquer hein avec la domotique, hein. Surtout que t'es là-dedans en ce moment aussi, Guillaume.
Ouais, j'y suis en ce moment même.
Je me suis acheté une petite lampe LED, donc avec le protocole Z-Wave, qui est un protocole domotique en gros. Hein. Voilà, et il fallait programmer tout ça, comment me lever. Donc, je l'ai mis un quart d'heure avant. Je commence par un bleu, tu vois. Un bleu qui se transforme en violet. Et après, on arrive à un beau rouge. Et après, on arrive au soleil. Donc, je fais, c'est pas super concluant pour l'instant. Je trouve que c'est, dès que je passe au jaune soleil, je fais un bond dans le lit. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Encore. Mais j'en suis pas loin. Je travaille dessus. Voilà.
Bon, voilà. Très bien.
Voilà.
Nous donnera des nouvelles de ton soleil, alors.
Ouais, et de ton sommeil aussi, exactement.
C'est mon réveil, surtout. C'est pas mon sommeil, je dors très bien. C'est mon réveil qui est très bon.
Je trouve, Jack, que tu soulèves une vraie question essentielle. Quoi. Comment se lever le matin, quoi. Putain, sérieux, est-ce que tu dois te lever en écoutant la radio, en mettant de la musique quelle musique ? Quand j'étais ado et que j'avais que ça à foutre et que j'étais passionné de musique, je me disais, mais avec quoi tu te réveilles le matin ?
C'est ça. J'ai tout essayé pour
qu'est-ce qu'il faut se réveiller le matin. Non, mais moi, c'était sur le show de la musique, en fait. Quel morceau pour me réveiller ? Est-ce que je dois te réveiller délicatement ? Est-ce que je dois te réveiller sauter lui ?
Un bon métal.
Ah là. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Non, mais voilà. Moi, en ce moment, je ne suis plus musique. J'ai enlevé la musique et je suis avec la lumière. Voilà. Ouais. Avec les odeurs, il paraît que c'est bien. J'ai vu qu'il existait des réveils avec les odeurs. Ah bah, cette odeur de café, tout ce fumage,
l'odeur qui te réveille, c'est bon. Hein.
Agréable, on veut dire.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? Non mais une odeur de café. Non mais sérieusement.
Si, cette odeur de café, de croissant, en réveil, ça va te réveiller, titiller. Oh là là là. Moi, je vais essayer ça.
Ouais, peut-être. Non, mais pourquoi pas. Écoute, hein, vraiment, c'est bien. C'est beau la technologie. Je pense que effectivement.
Ouais, qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça que j'hésitais à la dire, cette...
Non, ça aurait été dommage de passer à côté.
Effectivement. Est-ce que tu as remercié nos tipeurs en début d'émission ?
Pas du tout.
Non, mais c'est toujours remercié dans la rediff. Mais bon, en début d'émission, si tu avais écouté la dernière.
Ouais, pardon.
Mais on va le faire en direct, tu as raison.
Très bien.
Vas-y.
Eh ben, on va remercier énormément quelqu'un qui nous a fait un très joli don, qui va nous permettre vraisemblablement de pouvoir contribuer à nos frais. Et c'est quelqu'un qui m'est cher, hein, puisqu'il s'agit d'une personne qui était inspectrice dans une autre académie que j'ai rencontrée, inspectrice de langue, parce qu'elle a été la pionnière, on va dire, en France, une des premières à lancer la baladodiffusion à échelle importante dans son académie il y a maintenant plus de 10 ans et a co-signé le premier guide de la baladodiffusion qui existe toujours d'ailleurs dans le réseau de Canopé et qui s'appelle Christine Minento et qui est maintenant
internationale
et qui écoute régulièrement l'émission, qui ne peut pas toujours être en direct parce qu'elle est dans différents fuseaux horaires et je ne désespère pas de la faire venir dans notre émission puisqu'elle aurait des tas de choses à dire effectivement puisque encore une fois elle a été dans les premières à vraiment lancer en tout cas impulser ses équipes et son académie sans être elle-même une geek avérée ou voilà c'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et voilà c'est exactement le type de personne qui pourrait répondre à l'article que tu as signé Seb que tu as signé certainement pas parce que
moi,
justement
c'est
vraiment ce qu'elle vous dit toujours quand on en parle, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle vienne, elle vient pas de la technique, elle aime ça mais pas sans être loin de nous et de tout ce qu'on peut. Voilà, je pense que c'est pas le genre de personne qui va se demander comment elle va programmer un réveil le matin avec une LED. Mais par contre, à côté de ça, voilà, elle a vraiment réussi à associer son expérience de
Insta plus, hein.
D'inspectrice, de formatrice, vraiment tout, et d'enseignante à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Elle a été dans les premières et voilà. Et je lui dois beaucoup de choses. Donc, j'espère qu'elle pourra venir.
Elle nous a fait un très beau geste pour nous soutenir. Moi, je rajoute, puisqu'on est dans les Tipeee, hein, Fabien Aubard de Nipédu, hein, qui on peut le remercier aussi, hein, qui nous a fait aussi un beau geste aussi pour nous soutenir. Voilà. Mais c'est vrai qu'en début d'émission, en tout cas dans le podcast Rediff, hein, c'est notifié à chaque fois. Voilà.
Très bien.
Voilà, ben j'en profite. Hein, si vous voulez aussi faire comme eux et nous soutenir, hein, vous avez tipeee.com/eteachers et vous pouvez nous soutenir hein, par émission ou comme certains un one shot pour nous donner quelque chose. Ça nous aide en tout cas pour plein de choses, pour tout ce qui est frais, pour tout ce qui est là où on pourrait s'améliorer. J'en bafouille. Donc voilà, si vous voulez en tout cas nous rejoindre, c'est toujours itishirts.fr pour louper aucun épisode. Surtout bon lecteur de podcast, vous pouvez nous retrouver aussi hein. Et sur les réseaux sociaux hein, notre Facebook et nos Twitter respectifs. Et comme d'habitude, on fait un petit tour. Qui c'est qui veut commencer? Tiens, Guillaume, allez. Qui était tout
bien,
à l'heure.
C'est parti. Moi, vous pouvez me joindre sur Twitter, même si je suis pas trop présent en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle des fuites de données de ces réseaux sociaux. Ce sera intéressant. En tout cas, vous pouvez toujours me trouver sur Twitter, @willowteach, donc W-I-2-L-O, le tiré du 8, underscore, et teach, T-E-A-C-H. Voilà.
Ok, Seb.
Alors, moi, c'est aussi sur Twitter avec @stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Voilà, et moi, ce sera @jeff8342 sur Twitter aussi. Merci à tous. La chatroom était hein, ça bougeait ce soir, j'ai trouvé. Hein, c'est
ouais,
bien.
Cool. On voit que c'est les
Japonais. Ouais, on voit que c'est. Enfin, pour les Lyonnais. À la prochaine.
Salut.